Audiolib présente « Une brève histoire de l'avenir » de Jacques Attali, lu par Thierry Cazazian.
Alas, it is delusion all. The future shits us from afar. Nor can we be what we recall, nor dare we think on what we are. Hélas, tout est illusion. L'avenir se moque de nous à distance. Nous ne pouvons ni ressembler à nos souvenirs, ni oser nous accepter comme nous sommes. Lord Byron, Stanzas for Music. Avant-propos. Aujourd'hui se décide ce que sera le monde en 2050 et se prépare ce qu'il sera en 2100. Selon la façon dont nous agirons, nos enfants et nos petits-enfants habiteront un monde vivable ou traverseront un enfer en nous haïssant. Pour leur laisser une planète fréquentable, il nous faut prendre la peine de penser l'avenir, de comprendre d'où il vient et comment agir sur lui. C'est possible. L'histoire obéit à des lois qui permettent de la prévoir et de l'orienter. La situation est simple. Les forces du marché prennent en main la planète. Ultime expression du triomphe de l'individualisme, cette marche triomphante de l'argent explique l'essentiel des plus récents soubresauts de l'histoire. Pour l'accélérer, pour la refuser, pour la maîtriser. Si cette évolution va à son terme, l'argent en finira avec tout ce qui peut lui nuire, y compris les États, qu'il détruira peu à peu, même les États-Unis d'Amérique. Devenue la loi unique du monde, le marché formera ce que je nommerais l'hyper-empire, insaisissable et planétaire, créateur de richesses marchandes et d'aliénations nouvelles, de fortunes et de misères extrêmes. La nature y sera mise en coupe réglée. Tout sera privé, y compris l'armée, la police et la justice. L'être humain sera alors harnaché de prothèses, avant de devenir lui-même un artefact vendu en série à des consommateurs devenant eux-mêmes artefacts. Puis l'homme, désormais inutile à ses propres créations, disparaîtra. Si l'humanité recule devant cet avenir, et interrompt la globalisation par la violence avant même d'être libérée de ses aliénations antérieures, elle basculera dans une succession de barbaries régressives et de batailles dévastatrices, utilisant des armes aujourd'hui impensables, opposant États, groupements religieux, entités terroristes et pirates privés. Je nommerai cette guerre l'hyperconflit. Il pourrait lui aussi faire disparaître l'humanité. Enfin, si la mondialisation peut être contenue sans être refusée, si le marché peut être circonscrit sans être aboli, si la démocratie peut devenir planétaire tout en restant concrète, si la domination d'un empire sur le monde peut cesser, alors s'ouvrira un nouvel infini de liberté, de responsabilité, de dignité, de dépassement, de respect de l'autre. C'est ce que je nommerais l'hyper-démocratie. Celle-ci conduira à l'installation d'un gouvernement mondial démocratique et d'un ensemble d'institutions locales et régionales. Elle permettra à chacun, par un emploi réinventé des fabuleuses potentialités des prochaines technologies, d'aller vers la gratuité et l'abondance, de profiter équitablement des bienfaits de l'imagination marchande, de préserver la liberté de ses propres excès comme de ses ennemis, de laisser aux générations à venir un environnement mieux protégé, de faire naître, à partir de toutes les sagesses du monde, de nouvelles façons de vivre et de créer ensemble. On peut alors raconter l'histoire des 50 prochaines années. Avant 2035, prendra fin la domination de l'Empire américain, provisoire, comme celle de tous ses prédécesseurs. Puis déferleront l'une après l'autre trois vagues d'avenir. Hyper-empire, hyper-conflit, puis hyper-démocratie. Deux vagues a priori mortelles, une troisième a priori impossible. Sans doute ces trois avenirs se mêleront-ils, ils s'imbriquent déjà. Je crois en la victoire vers 2060 de l'hyperdémocratie, forme supérieure d'organisation de l'humanité, expression ultime du moteur de l'histoire, la liberté. Pour expliquer et étayer ce pronostic, j'entends raconter ici l'histoire de cet avenir. Entreprise absurde, dira-t-on. Tant d'événements, tant d'individus peuvent en inverser le cours. Et de surcroît, si le fondement de l'histoire est la conquête de la liberté individuelle, alors cette finalité même la rend imprévisible. Quelques exemples suffisent à s'en convaincre. Si en 1799 le général Bonaparte n'avait pas pris un tel ascendant sur ses contemporains, la Révolution française aurait pu immédiatement accoucher d'une république parlementaire, gagnant ainsi un siècle sur l'histoire réelle. Si en juin 1914, un assassin à Sarajevo avait raté sa cible, la Première Guerre mondiale ne se serait pas déclenchée, en tout cas pas de la même façon. Si en juin 1941, Hitler n'avait pas envahi la Russie, il aurait pu, comme le général Franco, mourir au pouvoir et dans son lit. Si le Japon, la même année, avait attaqué la Russie au lieu des États-Unis, ceux-ci ne seraient peut-être pas entrés dans la guerre et n'auraient pas libéré l'Europe, comme ils n'ont ensuite jamais libéré ni l'Espagne ni la Pologne. La France, l'Italie et le reste de l'Europe serait ainsi peut-être resté sous la botte hitlérienne, au moins jusqu'à la fin des années 1970. Enfin, si en 1984, le secrétaire général du Parti communiste soviétique Yuri Andropov n'était pas mort prématurément, et si le successeur de son successeur avait été, comme il était prévu, Grigori Romanov au lieu de Mikhail Gorbatchev, l'Union soviétique existerait probablement encore. Absurde aussi de tenter de prévoir l'avenir. Car toutes les réflexions à son sujet ne sont en général que des élucubrations sur le présent. Ainsi, dès les premières sociétés humaines, les discours sur les temps futurs se résumaient à prédire un éternel retour des astres et des récoltes. Pour les prêtres et les augures, le monde ne pouvait survivre qu'en obtenant le retour de la pluie et du soleil. Un monde meilleur n'était possible que dans un au-delà cosmique, espace idéal, lui aussi stable, cyclique, dont l'avènement tenait plus au bon vouloir énigmatique des dieux qu'aux actions des hommes. Quand il devint clair que l'innovation pouvait améliorer la vie matérielle, intellectuelle et esthétique, apparurent, d'abord autour de la Méditerranée, quelques peuples déterminés à concevoir et mettre en œuvre un progrès terrestre. Ceux qui pensèrent ensuite l'avenir de la Terre, philosophes, artistes, juristes, puis savants, économistes, sociologues, romanciers, futurologues, le décrivirent encore en général comme le prolongement naïf de leur propre présent. Par exemple, à la fin du XVIe siècle, tous pronostiquaient que l'apparition en Europe des caractères mobiles de l'imprimerie ne ferait que renforcer les deux pouvoirs alors dominants, l'Église et l'Empire. De même, à la fin du XVIIIe siècle, la majorité des analystes ne voyaient dans la machine à vapeur qu'une attraction de foire, qui ne changerait rien au caractère agricole de l'économie. De même encore, à la fin du XIXe siècle, l'électricité n'avait, pour l'essentiel des observateurs, qu'un seul avenir, permettre d'éclairer autrement les rues. Et si au début du XXe siècle, certains prévoyaient l'apparition du sous-marin, de l'avion, du cinéma, de la radio, de la télévision. Personne, pas même Jules Verne, ne pensait que cela pourrait venir modifier l'ordre géopolitique alors dominé par l'Empire britannique. Personne non plus, a fortiori, ne voyait venir le déclin de l'Europe, la montée du communisme, du fascisme et du nazisme. Encore moins la venue de l'art abstrait, du jazz, de l'arme nucléaire, ou de la contraception. De même, à la fin du siècle dernier, beaucoup considéraient encore l'ordinateur personnel et Internet comme des curiosités de peu d'importance, et rares ceux qui imaginaient le mariage homosexuel. Enfin, récemment encore, très peu d'analystes ont vu venir le retour de l'islam au cœur de l'histoire. Aujourd'hui encore, la plupart des récits sur l'avenir ne sont que des extrapolations de tendances déjà à l'œuvre. Rares sont ceux qui se risquent à des prévisions décalées, à annoncer des bifurcations, des renversements, des changements de paradigme, en particulier en matière de mœurs, de culture ou d'idéologie. Moins encore à anticiper les crispations idéologiques qui pourraient ralentir ou même interdire ces profondes ruptures. Et pourtant, dans le prochain demi-siècle, tout changera dans de multiples directions qu'il est tout à fait possible de dessiner. Après les avoir évoqués au début de cet avant-propos en quelques lignes, en voici un résumé en quelques pages. Tout commencera par un bouleversement démographique. En 2050, sauf catastrophe majeure, 9,5 milliards d'êtres humains peupleront la Terre, soit 3 milliards de plus qu'aujourd'hui. L'espérance de vie dans les pays les plus riches approchera le siècle. La natalité stagnera sans doute encore au voisinage du seuil de reproduction. En conséquence, l'humanité vieillira. On comptera 360 millions d'habitants de plus en Chine, 600 millions de plus en Inde, 100 millions de plus au Nigeria et au Bangladesh, 80 de plus aux États-Unis, 9 de plus en France, 10 de moins en Allemagne, et peut-être 30 de moins en Russie. Les deux tiers de la planète vivront dans des villes dont la population aura doublé, tout comme devrait doubler la quantité d'énergie et de produits agricoles consommés. Le nombre de gens en âge de travailler aura aussi doublé. Plus des deux tiers des enfants nés cette année-là vivront dans les 20 pays les plus pauvres. Bien d'autres bouleversements auront lieu, qu'il est aussi possible de prévoir avec une certaine précision. À l'observer sur la très longue durée, l'histoire s'écoule en effet dans une direction unique, entêtée, très particulière, qu'aucun soubresaut même prolongé n'a jusqu'à présent réussi à détourner durablement. De siècle en siècle, l'humanité impose la primauté de la liberté individuelle sur toute autre valeur. Elle le fait par le rejet progressif de la résignation à toute forme de servitude, par des progrès techniques permettant de réduire tout effort, par la libéralisation des mœurs, des systèmes politiques, de l'art et des idéologies. Autrement dit, l'histoire humaine est celle de l'émergence de la personne comme sujet de droit, autorisé à penser et à maîtriser son destin, libre de toute contrainte si ce n'est le respect du droit de l'autre aux mêmes libertés. Cette évolution, encore réservée aux plus riches, conduit à remettre en cause en permanence les pouvoirs en place et à faire naître de nouvelles puissances. En particulier, pour faire émerger cette primauté de l'individu sur la société, les peuples ont élaboré progressivement divers systèmes de répartition des biens rares. Pendant très longtemps, ils en ont laissé la charge au seul bon plaisir de chefs de guerre, de prêtres et de princes à la tête de royaumes et d'empires. Puis, une nouvelle classe dirigeante, plus vaste et plus mobile, celle des marchands, a imaginé deux nouveaux mécanismes révolutionnaires de partage des richesses, le marché et la démocratie. Apparus il y a près de 30 siècles, ils se sont progressivement imposés. Ils façonnent désormais une part croissante de la réalité du monde et conditionnent l'avenir. Progressivement, et malgré des réactions de plus en plus violentes, le marché a transformé sur des territoires de plus en plus vastes l'essentiel des services, l'alimentation, les vêtements, le loisir, le logement, le transport, la communication, rendu d'abord gratuitement, de bon gré ou sous la contrainte, en services marchands. Puis il les a transformés en objets industriels produits en série, en véritables outils de l'autonomie individuelle. Progressivement aussi, la liberté marchande a contribué à faire naître la liberté politique, d'abord pour une minorité, puis pour beaucoup, au moins formellement, sur des territoires de plus en plus vastes, remplaçant presque partout le pouvoir religieux et militaire. Au total, la dictature a laissé naître le marché qui a engendré la démocratie. Ainsi se sont installées, à partir du XIIe siècle, les premières démocraties de marché. Progressivement encore, leur espace géographique s'est étendu. Le cœur du pouvoir sur l'ensemble de ces démocraties de marché s'est peu à peu déplacé vers l'ouest. Il est passé au XIIe siècle du Proche-Orient à la Méditerranée, puis à la mer du Nord, à l'océan Atlantique et enfin aujourd'hui au Pacifique. 9 cœurs se sont alors succédés. Bruges, Venise, Anvers, Gênes, Amsterdam, Londres, Boston, New York et aujourd'hui Los Angeles. L'ensemble du monde, mis à part la Chine et le Moyen-Orient, est désormais partie prenante de cet ordre marchand. Progressivement toujours, la compétition a conduit à concentrer les pouvoirs sur les marchés et la démocratie, supposée être également accessible à tous, en de nouvelles élites mouvantes, maîtres du capital et du savoir, creusant de nouvelles inégalités. Si cette histoire multimillénaire se poursuit encore pendant un demi-siècle, le marché et la démocratie s'étendront partout où ils sont encore absents. La croissance s'accélérera, le niveau de vie s'élèvera, la dictature disparaîtra des pays où elle règne encore. Mais la précarité et la déloyauté deviendront les règles. L'eau et l'énergie se feront plus rares, le climat sera mis en péril. Les inégalités et les frustrations s'aggraveront. Des conflits se multiplieront. De grands mouvements de population s'amorceront. Vers 2035, à la fin d'une très longue bataille et au milieu d'une grave crise écologique, les États-Unis, empire encore dominant, seront vaincus par cette mondialisation des marchés, en particulier financiers, et par la puissance des entreprises, en particulier celle des compagnies d'assurance. Épuisés financièrement et politiquement, comme les autres empires avant eux, les États-Unis cesseront alors de gérer le monde. Ils resteront la puissance majeure de la planète. Ils ne seront pas remplacés par un autre empire ni par une autre nation dominante. Le monde deviendra provisoirement polycentrique, géré par une petite dizaine de puissances régionales. Puis, vers 2050, le marché, par nature sans frontières, l'emportera sur la démocratie, institutionnellement circonscrite à un territoire. Les États s'affaibliront. De nouvelles technologies nanométriques réduiront les consommations d'énergie et transformeront les ultimes services encore collectifs, la santé, l'éducation, la sécurité et la souveraineté. De nouveaux objets de consommation majeurs apparaîtront, que je nomme des surveilleurs, permettant de mesurer et contrôler la conformité aux normes. Chacun deviendra son propre médecin, professeur, contrôleur. L'économie sera de plus en plus économe en énergie et en eau. L'auto-surveillance deviendra la forme extrême de la liberté et la peur de ne pas satisfaire à des normes en sera la limite. La transparence deviendra une obligation. Quiconque voudra ne pas faire connaître ses appartenances, ses mœurs, son état de santé ou son niveau de formation sera a priori suspect. L'accroissement de la durée de la vie donnera le pouvoir aux plus âgés, qui choisiront de s'endetter. Les États s'effaceront devant les entreprises et les villes. Des hyper-nomades dirigeront un empire hors sol, sans centre, ouvert, un hyper-empire. Chacun n'y sera plus loyal qu'à lui-même. Les entreprises ne se reconnaîtront plus aucune nationalité. Les pauvres constitueront un marché parmi d'autres. Les lois seront remplacées par des contrats. La justice par l'arbitrage. La police par des mercenaires. De nouvelles diversités s'installeront. Des spectacles et des sports verront le jour pour distraire les sédentaires, pendant que des masses immenses de nomades de misère, les infranomades, bousculeront les frontières pour chercher de quoi survivre. Des compagnies d'assurance, Devenus régulateurs du monde, ils fixeront les normes auxquelles devront se plier les États, les entreprises et les particuliers. Des organismes privés de gouvernance veilleront, pour le compte de ces assureurs, au respect de ces normes. Les ressources se feront plus rares, les robots plus nombreux. Le temps, même le plus intime, sera presque entièrement occupé par l'usage de marchandises. Un jour même, chacun se verra proposer d'être auto-réparé, puis de produire des prothèses de lui-même, enfin d'être cloné. L'homme deviendra alors artefact consommateur d'artefacts cannibales, mangeur d'objets cannibales, victime de mots nomades. Tout cela n'ira naturellement pas sans de terribles secousses. Bien avant la disparition de l'Empire américain, bien avant que le climat ne devienne quasi insupportable, des populations se disputeront des territoires. D'innombrables guerres auront lieu. Nations, pirates, mercenaires, mafias, mouvements religieux se doteront d'armes nouvelles, instruments de surveillance, de dissuasion et de frappe, utilisant les ressorts de l'électronique, de la génétique, des nanotechnologies. De plus, l'avènement de l'hyper-empire conduira chacun à devenir le rival de tous. On se battra pour le pétrole, pour l'eau, pour conserver un territoire, pour le quitter, pour imposer une foi, pour en combattre une autre, pour détruire l'Occident, pour faire régner ses valeurs. Des dictatures militaires confondant armée et police prendront le pouvoir. Une guerre plus meurtrière que les autres, un hyper-conflit cristallisant tous les autres, éclatera peut-être, anéantissant l'humanité. Vers 2060 au plus tôt, à moins que l'humanité ne disparaisse sous un déluge de bombes, ni l'Empire américain, ni l'hyper-empire, ni l'hyper-conflit ne seront tolérables. De nouvelles forces, altruistes et universalistes, déjà à l'œuvre aujourd'hui, prendront le pouvoir mondialement, sous l'empire d'une nécessité écologique, éthique, économique, culturelle et politique. Elles se rebelleront contre les exigences de la surveillance, du narcissisme et des normes. Elles conduiront progressivement à un nouvel équilibre, cette fois planétaire, entre le marché et la démocratie, l'hyper-démocratie. Des institutions mondiales et continentales organiseront alors, grâce à de nouvelles technologies, la vie collective. Elles fixeront des limites à l'artefact marchand, à la modification de la vie et à la mise en valeur de la nature. Elles favoriseront la gratuité, la responsabilité, l'accès au savoir. Elles rendront possible la naissance d'une intelligence universelle, mettant en commun les capacités créatrices de tous les êtres humains pour les dépasser. Une nouvelle économie dite relationnelle, produisant des services sans chercher à en tirer profit, se développera en concurrence avec le marché avant d'y mettre fin, tout comme le marché mit un terme, il y a quelques siècles, au féodalisme. En ces temps-là, moins éloignés qu'on ne le croit, le marché et la démocratie, au sens où nous les entendons aujourd'hui, seront devenus des concepts dépassés, des souvenirs vagues, aussi difficiles à comprendre que le sont aujourd'hui le cannibalisme ou les sacrifices humains. Comme tout résumé, ce qui précède pourrait paraître évidemment caricatural, péremptoire et arbitraire. Tout l'objet de ce livre est de montrer que telle est pourtant la figure la plus vraisemblable de l'avenir. Non pas celui que je souhaite. J'écris ce livre justement pour que l'avenir ne ressemble pas à ce que je crains qu'il soit, et pour aider au déploiement des formidables potentialités aujourd'hui à l'œuvre. Mes lecteurs assidus y retrouveront l'approfondissement de thèses développées au fil d'essais et de romans précédents, dans lesquels j'annonçais, bien avant qu'on en parle couramment, le basculement géopolitique du monde vers le Pacifique, l'instabilité financière du capitalisme, les enjeux du climat, l'émergence des bulles financières, la fragilité du communisme, les menaces du terrorisme, le surgissement du nomadisme, l'avènement du téléphone portable, de l'ordinateur personnel, d'Internet et autres objets nomades, l'émergence du gratuit et du sur-mesure, le rôle majeur de l'art, en particulier de la musique, dans la diversité du monde. Les plus attentifs de ces lecteurs y verront aussi certaines inflexions dans ma pensée. Elle n'est, fort heureusement, pas descendue du ciel toute formée. Enfin, comme toute prédiction est d'abord discours sur le présent, cet essai est aussi un livre politique dont chacun pourra, j'espère, faire le meilleur usage au moment où s'annoncent tant d'échéances majeures, en France au moins, autant qu'ailleurs.